Voilà, je suis désolé, la régie fait pas son travail, mais c'est parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour manger, il faut l'excuser. Elle vous en remerciera de votre bienveillance et de votre compréhension. Alors, je recommence mon intro qui était de qualité, mais qui a été malheureusement abîmée par le travail de la régie. Vous allez vous demander ce que je suis encore en train de jouer avec mon téléphone. Eh bien, je suis un mec corporate, le saviez-vous? Et du coup, je suis en train d'être sur YouTube, que vous voyez mal parce qu'il y a l'incrustation. Et du coup, ce que je vais faire, je vais mettre symboliquement un pouce bleu, un pouce en l'air. Et je vous invite à faire de même. Voilà, de façon à ce que cette vidéo soit mieux référencée sur YouTube. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, il faut commencer par dire bonjour, c'est tout à fait vrai. Mais je préfère les introductions un petit peu originales, un petit peu créatrices, créatives. Et finalement, qui sortent de l'ordinaire, qui sortent de votre quotidien. Bonjour. Je vais essayer de mettre mon micro devant devant la bouche. C'est plus facile pour parler. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Perceval. Comment va ma pensée complexe aujourd'hui? Elle va bien. Merci pour elle. Bon, rebonjour Julie. Bonjour Tibbs. Bonjour, rebonjour Visi aussi. Enfin, bonjour à tous ceux qui n'étaient pas là au Conseil des ministres. Vous aurez le replay très bientôt, je le mets en ligne cet après-midi, promis. Bonjour à... Rebonjour à tous ceux qui étaient déjà là. Salut Damien. Désolé que la régie t'a coupé dans mon monologue de rediffusion tout à l'heure. Ça reviendra, promis, on s'y engage solennellement. Bonjour Lélinéa. Léna. Lénéa. Je suis daltonien, donc j'ai du mal à lire le pseudo et ça s'affiche en vert chez moi, donc c'est compliqué. Bonjour Zorg. Bonjour le schizofrench. Bonjour à Adix, c'est une alternative à Hardisk, c'est ça? Ton pseudo? Salut Gultix, salut Redetskirel, salut Phyton. Est-ce que la régie a changé ou c'est encore la même oufue? C'est une excellente question, je remercie la régie, qui est pro, au moins autant que les modérateurs. La régie assurée par un certain Alexandre. Voilà une régie un petit peu... géopolitique, un petit peu une couleur multilatéraliste finalement. Hein? Bon, disons les choses comme elles sont. Salut Camarde, salut Tché. Je veux pas te prêter de fausses intentions, mais il me semble qu'il manque une lettre dans ton message. Salut Durandal, il est encore temps d'adhérer à l'UPR, Sylvain. Alors, puisque tu en parles, il est temps pour moi de faire mon coming out politique. Non. La régie est en hyperglycémie. Puisque la régie est en train de manger, on peut en parler. Mais je ne balancerai pas les infos confidentielles de réalisation de ces émissions. Voilà. Re-Sylvain, bien mangé. Eh ben écoute, c'était pas mal. C'était pas mal. Une petite salade de qualité, préparée avec amour par votre serviteur. Oui, je mange healthy et de manière saine parce que je suis un bobo parisien avant tout. C'est une révélation, ça. Non, je suis Dijonnais. Oubliez ce que j'ai dit, je suis Dijonnais. Alors, 14h49. Nous allons parler des questions d'actualité au gouvernement, puisque c'est un petit peu le sujet qui nous intéresse présentement. La régie mange des kebabs financés par les dons, voyons. Non. Doublement non, d'ailleurs. C'était pas un kebab. C'était pas vraiment un kebab. Je peux dire si, c'est pas un kebab. Ça, j'appelle pas ça un kebab. Kebab, c'est pas avec du pain comme ça. Mais effectivement, ces frites étaient très bonnes. Un bobo parisiano-upériste. Ouais, c'est à peu près ça. C'était toute ma difficulté ce week-end dans le match Dijon-PSG d'ailleurs. Cela n'est pas le sujet du jour, hein? Donc on va dire qu'on va pas en parler. Alors, la régie ne mange que des pépitos. Mais ça, c'était avant, c'était sous l'ancienne législature. Les pépitos, c'est fini, Vekaboche. Il est l'heure de faire mon coming out. Attends, il va dire quoi? Qu'il est nivernais ou qu'il kiffe la Franche-Comté? Alors moi, je kiffe la Franche-Comté depuis qu'elle est bourguignonne. Voilà, les choses sont dites. Et j'ai été nivernais pendant 1 an et demi. Voilà. Mais ce n'est pas le sujet, on s'en fout. Voilà. Je remercie par avance, je le referai à la fin de cette émission, l'équipe qui prépare ces QAG avec la qualité, toujours, de l'humanisme et de la bienveillance. Et j'ai nommé Amy pour commencer, notre chapeauteuse d'équipe de préparation de QAG, fidèle au poste, avec Benoît et Thomas, qui font un travail exceptionnel au service d'Acropolis, au service de sa communauté. Voilà. Vous n'avez pas mangé de cordon bleu, shame on you. Alors j'ai. Je. Voilà. Il n'y en avait pas à la cantine. D'ailleurs, il n'y avait pas de cantine. Du coup, compliqué. Alors, 14h51, je vais respecter la tradition du pouce bleu déjà, pensez au pouce bleu sur YouTube. La tradition massiettesque. Nous sommes mercredi, c'est pour les QAG. Quelles questions vous poseriez au gouvernement si vous étiez député aujourd'hui? Sachant qu'on a vu pas mal de sujets d'actualité ce matin pendant le Conseil des ministres, enfin tout à l'heure pendant le Conseil des ministres. On a parlé du budget, on a parlé de géopolitique, on a parlé des petites phrases de Christophe Castaner, des 10 milliards d'euros que Bercy va devoir reverser aux entreprises. On a parlé de quoi d'autre? On a parlé de un tout petit peu de restauration du patrimoine. Je ne sais plus ce qu'on a dit d'autre. On a parlé de RACA, oui, j'ai dit géopolitique. On a parlé d'ISF. Monsieur le ministre, quand comptez-vous nous rendre Jean Massier? À quel ministre tu t'adresses, Xan? Quand est-ce que vous comptez rendre l'argent? La personne concernée par ce message n'est pas ministre. Plus ministre. Est-ce que ça va? Voilà mes questions au gouvernement. Je pense que c'est une question qui n'est pas assez souvent posée. Monsieur le Premier ministre, what's up? Au Premier ministre, quelle suite à la lutte sur le terrain contre Daesh maintenant que Raqqa est tombée? Alors je sais pas si c'est le Premier ministre qui répondra ou le ministre des Affaires étrangères, du coup. Jean-Yves Le Drian, mais peut-être. Peut-être. Que pensez-vous du devoir de vigilance des entreprises vis-à-vis de leurs filiales à l'étranger? C'est une très bonne question. Ça a été déjà un peu abordé en début de QAG hier, il me semble. Ben c'est sûr d'ailleurs, oui. Monsieur le ministre de la Transition écologique, quelle évolution pour l'agriculture sans glyphosate? Alors c'est une question qui a été souvent posée les semaines précédentes. Est-ce que ça va revenir aujourd'hui encore? C'est possible. Quand même un sujet très très. C'est un sujet très sensible. Monsieur le ministre de l'Intérieur, y a-t-il beaucoup de risques d'attentats sur nos députés? Alors cette question de Dead Skirrel fait suite à, vous avez peut-être suivi, l'arrestation d'une dizaine de personnes qui avaient préparé des attentats, notamment contre des personnalités politiques comme Mélenchon et Castaner, des personnes plutôt d'orientation d'ultra-droite. Que pensez-vous de l'e-sport au JO 2024? Alors je pense que c'est une bonne question, mais c'est plutôt à, comment il s'appelle? L'organisateur, le responsable de la commission, l'ancien sportif, là je sais plus comment il s'appelle. C'est pas forcément le gouvernement qui va répondre à cette question. Est-ce normal que Pierre Gattaz propose de surveiller quotidiennement les chômeurs quand le MEDEF n'a pas créé les emplois promis pour le avec le CICE? Alors je te spoil la réponse est oui, c'est normal qu'il le propose. C'est son rôle. Qu'on soit d'accord ou pas. Maintenant on en pense ce qu'on en veut. Madame la garde des Sceaux, allez-vous autoriser le tilde sur le N pour le président? Ok. On est sur une question bretonne, il me semble. Donc, pas intéressante. Petite question sur la première éolienne flottante installée. Elle a été installée, Max? Vu qu'on attend le début, petite question hors sujet, on n'attend pas le début, on prépare le début. Et je t'avoue que. Alors, je réponds au message de Aras dans le chat qui est un peu long, donc je ne vais pas vous le lire. Je vous laisse en discuter dans le chat si vous voulez, mais c'est pas tout à fait le sujet. Monsieur le ministre de l'Intérieur, est-ce que vous sortez parfois? Alors la réponse est oui, The Lame Rank. Gultix ce qui dit. Seyo Estanguet, voilà, Tony Estanguet qui est le président du comité olympique pour la ex-candidature et pour la préparation des JO de 2024 à Paris. Mais pourquoi l'extension ne m'a pas prévenu du live scandale censure? Mais tu sais très bien que tous les mardis et mercredis à cette heure-là, il y a un live, Fanny. T'as besoin d'une extension pour ça. T'es au-dessus de ça, normalement, Fanny. Ou alors t'as changé. Il y a Alexandre qui dit du mal de toi en plus en régie. Je balance, hein. Ah, mais si le FN se met à faire des attentats contre comme Daesh, où va le monde? Alors je te laisse responsable de tes propos, Xan. L'ultra-droite ne se résume pas au FN. Monsieur le Premier ministre, quand comptez-vous rendre Dijon comme capitale de la France? C'est pas le Premier ministre qui le décidera, c'est Dijon qui l'imposera en fait, avec Caboche. Charles Maurice, je pense que je vais te ban bientôt. Jean-Luc Mélenchon pose une question justement. Oui, il y a une question de Jean-Luc Mélenchon qui sera posée. Quand Acropolis sera soutenu financièrement, monsieur le ministre, ça je pense pas qu'il y ait un député qui va poser la question non plus. On sait jamais, j'en doute. Monsieur le Premier ministre, maintenant que la ville de Raqqa, on l'a déjà posé la question, que faire de l'avenir des forces kurdes et d'un hypothétique Kurdistan irakien? Alors c'est une bonne question, très complexe, je ne sais pas si les QAG sont l'endroit le plus adapté pour ça. Parce que réponse en 2 minutes pour expliquer la position de la France, c'est compliqué, mais la question est bonne. J'ai du sang breton et bourguignon, Sylvain, je fais comment? Eh ben, tu as de l'espoir. Il te reste l'espoir. Tu peux te repentir encore. Tu peux encore renier tes origines bretonnes. Bon, alors les questions sur la Brune-Franche-Comté, je vais arrêter de les lire, c'est très gentil, je vous aime beaucoup, mais voilà. Monsieur Darmanin, quel est votre avis sur la position de Monsieur Gattaz, sachant que la fraude à Pôle emploi de 2015 a coûté 169 millions d'euros, alors que la fraude aux cotisations sociales de la part des entreprises est équivalente à 463 millions d'euros? Question directe. La réponse peut être, les deux n'ont rien à voir et il faut lutter contre les deux. Hypothèse. Et un don de Pozzo qui nous dit, bon, finalement le don passe, mais trop tard pour le kebab. Je m'engage solennellement à manger un kebab, ça sera pas grâce à ce don, mais je vous signalerai quand j'aurai mangé un kebab pour honorer ce don. Merci infiniment, Pozzo. Que me dit la régie? Un kebab à l'antenne. Non. Il veut que je mange un kebab à l'antenne, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Il y a Fanny qui te fait des menaces en plus. Je sais pas si tu regardes le chat. Il y a la régie qui attend Fanny. Voilà. Je passe les messages personnels pendant l'émission. Si vous avez d'autres messages à envoyer, si vous voulez saluer Kevin de la 5e C du collège de Béziers, n'hésitez pas. Pourquoi Béziers? Je ne sais pas. C'est le premier nom qui m'est venu en tête. Je comprends. Blablabla. Elle a été inaugurée. J'en ai déduit installée, mais peut-être que je m'emballe. Je sais pas du tout, Max la menace. Peut-être que cette éolienne a été installée. Alors, il est 14h58, il n'y a toujours pas d'image qui nous vient de l'Assemblée nationale, non. C'est pas très grave, tout va bien. Une question sur les révélations du financement de la campagne de Sarkozy, peut-être, je suis pas sûr qu'il enclume, tant qu'il y a une enquête en cours. Toujours difficile d'avoir des questions et des réponses. Laisser la justice faire son travail, hein, finalement. Le gouvernement se positionnera jamais sur le Kurdistan, c'est trop chaud. Alors il prendra peut-être une position, mais certainement mesurée. Avec des pincettes, comme on dit. Du coup, en rapport avec les QAG, une question sur les déclats de Castaner sur le thème gouvernement des riches. Quelle déclaration sur les libertés, c'est la semaine dernière qu'il avait parlé du budget pour les riches. Monsieur le Premier ministre, est-ce que la Tour Eiffel peut déclarer son indépendance et ainsi acquérir une certaine autonomie? Non. Je vous réponds, hein, ça évite que vous dérangez les ministres pour ça. Question de Mélenchon aujourd'hui au QAG? Oui. On l'a déjà dit. Peut-on mettre une éolienne sur la Tour Eiffel? Je pense que c'est pas le gouvernement qui décide de ça. On en parle du scandale du remboursement des 10 milliards à des boîtes pleines aux as à cause d'une cour constitutionnelle déconnectée de la réalité. Alors peut-être qu'il y aura une question sur ce sujet, ça a déjà été évoqué dans le Conseil des ministres. Quand une automatisation des indemnisations chômage peut être la solution à la fraude? Bon courage pour mettre ça en place, Gain. Ce serait cool que Sylvain mange le fameux kebab au prochain Inside Acropolis. Alors déjà que dans un Inside Acropolis, j'ai porté la veste de Jennifer suite à un défi, c'est bon quoi. Hein? Les défis, ça va bien. Que devient votre stagiaire Valentin? Eh bien, je l'invite à répondre à cette question parce qu'il est souvent dans le chat. Ou des fois, il n'écrit pas, mais il est là. Dans l'ombre, il se cache, il est partout, dans les villes, dans les campagnes. Pardon, je m'égare. Question à la régie, pourriez-vous retravailler l'overlay un poil car on lit mal les pseudos? La réponse est non catégorique, voilà. Hein. Je transmets, moi je. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de Jean-Michel Apathy qui oppose une tentative d'attentat de la part de l'extrême droite aux violences d'extrême gauche face à François Ruffin? Est-ce normal de se sentir obligé de parler d'un autre sujet pour minimiser la violence de cette actualité? Question de Benji Funky, j'ai envie de te répondre. Et toi, tu en penses quoi? Voilà. Je m'assieds si tu nous écoutes. L'Irak a pris le contrôle du pétrole, le Kurdistan, c'est fini. Ok. Et une dédicace à Jean juste pour dire qu'on pense à lui. Ça tombe bien. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Alors, j'ai beaucoup de retard sur les messages. On envoie plein de love à Jean. Oui, absolument. Tu te sens exploité, Valentin? Alors, Valentin n'est plus stagiaire chez Acropolis. Hein. Prenez-vous les stagiaires pour le stage de troisième? Pas encore. Quand on aura une vraie organisation, on le fera. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonjour Fimad, bonjour Emeline. Enfin, rebonjour, du coup. Monsieur. Jean, il est où? Jean, il est dans son lit. Voilà. C'est l'heure de la sieste. 15h02, on n'a toujours pas d'image. Peut-être que tu peux actualiser le. On a une image. Nous allons donc passer au fabuleux générique de Théo. Et nous repassons ensuite à l'Assemblée nationale. Et nous voici en direct de l'Assemblée nationale, et sachant que la régie a oublié de mettre le plein écran, voilà. On l'aime bien. Et nous avons déjà le nom du député qui s'affiche, parce que oui, depuis hier, nous avons fait du travail, hein, mine de rien. Nous ne sommes pas là que pour manger des kebabs, grâce aux dons de la magnifique communauté d'Acropolis. Et nous avons le nom des députés qui va s'afficher ici. Et là, il y a des feuilles qui dépassent, c'est pas joli. Voilà qui est plus propre. J'invite la régie peut-être à me décaler légèrement sur l'extérieur de la. C'est une suggestion. C'est une suggestion. Je ne suis qu'une suggestion. Je ne suis que proposition. Monsieur de Rugy, vous êtes un peu en retard. Hein? Après, on va vous prendre pour Christophe Castaner. Après, vous pouvez prendre ça comme un compliment. C'est pas le propos, mais. Voilà. Je soupçonne d'Acropolis d'avoir des actions à la confrérie des ORL en rapport avec les jingles qui pètent les tympans. Attendez, on a fait vachement d'efforts sur les jingles là. Je vous trouve dur. Hein. C'est très chelou les translations de
La
Sylvain sur
séance
l'écran.
est ouverte.
Je suis chelou. Hashtag je suis chelou.
L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement et la parole est à Monsieur David Lorion.
Et on commence par une question de David Lorion, député de La Réunion. Député LR.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, chers collègues, je voudrais me faire le porte-parole aujourd'hui des milliers d'étudiants et de leurs parents qui devront dans quelques semaines s'inscrire, notamment sur ce logiciel qu'on appelle APB, Admission Post-Bac. Donc
Quelques
vous
semaines,
savez
dans quelques
certainement,
mois.
Monsieur le Ministre, la cacophonie qui a été en 2017, laissant sur le carreau plus de 117 000 étudiants au mois de juin qui n'avaient pas encore trouvé de filière universitaire, 90 000 étudiants après le bac qui n'avaient toujours pas trouvé de filière universitaire et plus de 4 000 étudiants en septembre qui n'ont pas trouvé à s'inscrire dans les universités et les formations supérieures. Monsieur le ministre, les parents sont particulièrement inquiets de cette situation, car l'annonce de l'élimination donc d'APB a été faite et on ne sait absolument pas par quoi ça va être remplacé. Nous savons qu'en 2018, nous aurons les conséquences directes du baby-boom de 2000. Des étudiants auront 18 ans en 2018. Il y en a 40 000 de plus que ceux que nous avons connus en 2017. Nous ne savons pas où les mettre aujourd'hui. Ma question est assez claire.
Donc la
Est-ce que
question c'est
le
simple, qu'est-ce qui
gouvernement
va
a prévu
remplacer
des places
APB?
dans les universités pour les recevoir? ou est-ce que, comme j'ai cru l'entendre dans le discours du président de la République, va se distiller une certaine sélection à l'entrée des universités, ne permettant pas à tous les étudiants de pouvoir faire des filières universitaires classiques. Je parle aussi, évidemment, en tant que député de La Réunion, pour les étudiants outre-mer qui ont connu encore plus de difficultés, notamment que les étudiants nationaux, pour s'inscrire dans les filières universitaires. Merci de votre réponse, Monsieur le Ministre.
Merci.
Une première question sur qu'est-ce qui va prendre la place d'APB, comment ça va se passer pour les inscriptions des étudiants, notamment au regard du baby-boom qui arrive.
Monsieur le Président,
il y a eu un boom de naissance en 2000.
Monsieur le député David Lorion, la situation au 25 septembre,
donc c'est Frédéric Vidal qui répond,
faisait état de 3500 candidats qui n'avaient pas eu d'affectation. Et à ce jour, comme le travail a continué dans les rectorats et les universités, ils ne sont plus que quelques dizaines. Et parmi ceux-ci, la très grande majorité ont déclaré qu'ils avaient changé d'objectif et donc trouvé une autre orientation pour cette année post-bac. La situation a donc été prise en main.
Il y a quelques dizaines d'étudiants qui n'ont pas eu d'affectation et qui sont encore sur le carreau, dont certains ne sont plus candidats, visiblement.
C'est pourquoi, le 17 juillet dernier, j'ai lancé une...
Donc Frédéric Vidal qui explique qu'ils ont déjà eu à gérer les étudiants de cette année qui ont eu cette problématique liée à APB.
De réunir 27 organisations représentant des personnels, représentant des étudiants, des parents d'élèves, des élèves, de manière à ce que des propositions puissent être faites pour que, conformément aux engagements qui ont été pris par le Premier ministre, il y ait, pour la rentrée 2018...
En même temps, il n'avait pas trop le choix sur l'orientation, c'est un peu ça.
...mais aussi une amélioration des conditions de vie étudiante. Ce rapport me sera donc remis demain et nous aurons l'occasion d'annoncer, avant la fin des vacances de la Toussaint, à l'ensemble des lycéens de métropole et d'outre-mer, et de présenter les nouvelles conditions d'accès à l'enseignement supérieur l'année prochaine, une plateforme probablement rénovée, et ce qui nous permettra de ne plus tirer au sort les étudiants. Concernant les universités...
Fin du tirage au sort pour les étudiants.
J'ai eu une attention particulière pour ces universités, et en ce qui concerne l'Université de la Réunion,
ministre,
il n'y a plus aucun étudiant.
La parole est maintenant à madame...
Plus d'étudiants à la Réunion qui sont en attente d'affectation. Alors, APB, réponse de la rénovation, fin de la Toussaint.
À madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Hier avait lieu la 30e journée mondiale du refus de la misère. Cette journée donne la parole aux plus démunis, la parole sur leur résistance quotidienne, la parole sur leurs aspirations.
Notez que l'habillage d'Acropolis est beaucoup plus réactif que celui de l'Assemblée nationale, qui date de la fin du début des années 90, selon Jean Messier.
De lutte contre la pauvreté.
Qui a raison, sans doute.
En 2014, selon l'INSEE, 14% de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté. Dans certaines communes de ma circonscription, ce taux peut même être supérieur à 20%, comme à Rieux-la-Pape, ou à 50% dans des quartiers classés en politique de la ville, à Bron et à Vonvelin.
Les quartiers en politique de la ville, c'est des quartiers un peu sensibles.
Par la pauvreté, 3
quartiers populaires.
Des enfants. Ainsi, dans notre pays, un enfant sur 5 vit dans une famille pauvre. Au-delà de ces chiffres, nous devons nous engager pour que les enfants pauvres d'aujourd'hui ne deviennent pas les adultes pauvres de demain. Il nous faut donc pas seulement lutter
contre la pauvreté. Que les enfants pauvres d'aujourd'hui ne deviennent pas les adultes pauvres de demain. Ça, c'est de la punchline.
C'est le sens des mesures portées par le projet de notre président Emmanuel Macron et dont la mise en place...
Question Choupa, évidemment.
Avec le développement des classes de CP et de CE1, réseau d'éducation prioritaire depuis septembre...
Donc une nouvelle question sur l'éducation posée par la députée Anissa Kéder, députée du Rhône, qui est dans la vie civile cadre hospitalière. Elle a travaillé...
Droit au logement.
Elle a été infirmière, puis cadre de santé, ensuite travaillé aux urgences psychiatriques de Bron.
Il reste beaucoup à faire.
C'est à côté de Lyon.
Le gouvernement s'apprête à fixer un cap.
Et voilà.
Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous préciser votre feuille de route pour lutter contre l'exclusion?
Et a priori, il y a une réclamation sur son élection.
Merci,
qui est en cours.
Madame la députée.
Qui a été déposée par son adversaire.
La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités.
Et donc, c'est quel est l'avenir des solidarités
en France? Madame la députée Kéder.
pour qu'il y ait la progression sociale des enfants.
Ne doit connaître aucun répit. 1 million de personnes pauvres supplémentaires depuis 10 ans. Et un nombre d'enfants croissant.
C'est elle qui s'était fait attaquer sur le procès en amateurisme, je ne me souviens plus.
C'est la raison pour laquelle, avec le président de la République, nous avons lancé hier une concertation avec les différents acteurs du champ qui devrait aboutir à une stratégie de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes en mars 2018. Nous avons comme méthode d'impliquer les personnes pauvres, d'impliquer les associations, mais impliquer également les départements, les élus, les maires. Nous avons l'intention de décliner cette feuille de route selon 3 axes. D'une part, un axe autour de la prévention pour les personnes les plus précaires, afin qu'elles ne tombent pas dans la pauvreté et dans l'exclusion. Un axe autour de l'accompagnement et la simplification des droits, parce que le non-recours aux droits est un des problèmes majeurs aujourd'hui, donc un enjeu de simplification des
dispositifs. Le non-recours aux droits, c'est par exemple, je crois, la moitié des personnes qui sont qui peuvent toucher le RSA qui ne le touche pas, pour plusieurs raisons.
Je vous l'ai dit, je serai accompagnée pour cela d'un délégué interministériel. Ce plan sera interministériel avec le ministre de l'Éducation nationale, le ministre du Logement.
Donc l'opposition qui n'est pas contente puisqu'il y a un poste de délégué interministériel qui va être créé, ça fait un emploi en plus, etc. etc. Vous avez vu sur l'image qu'il y a des députés qui se déplacent puisqu'il va y avoir une question. Et du coup, ils se mettent en grappe derrière la personne qui va poser la question.
Merci, madame la ministre.
Voilà, la ministre Agnès Buzyn qui a présenté son plan de lutte contre la pauvreté.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues.
Question des constructifs.
Je souhaite aujourd'hui me faire le relais des incompréhensions et inquiétudes face au sort réservé à l'APL dans le projet de loi de finances 2018.
Ah, le point APL.
La manifestation des représentants de bailleurs sociaux et des associations de défense de locataires hier doit nous alerter. Le gouvernement prévoit en effet une baisse de cette aide de l'ordre de 50 euros par mois qui serait compensée par des baisses de loyers équivalentes dans les logements sociaux, supportés intégralement par les bailleurs sociaux. Dans un an, ce sont la moitié des organismes qui seront dans le rouge. Tous les offices vont perdre en capacité de maintenance, de réhabilitation, de construction. Dès à présent, des projets sont stoppés au vu des annonces déjà faites. La mesure est loin d'être indolore et ne peut que créer fracture territoriale et fracture sociale. Elle pénalise les locataires qui devront souffrir d'un parc moins bien entretenu et moins renouvelé. Les bailleurs sociaux...
Le député Guy Bricout, donc député du Nord, qui fait le porte-voix des bailleurs sociaux qui s'inquiètent de l'évolution de leurs revenus. Donc le projet de budget qui prévoit une baisse de 50 euros des APL qui sont versés directement aux bailleurs sociaux pour les locataires, bon, y en a. Enfin, quand ils touchent quand ils ont droit aux APL évidemment. Et du coup, une baisse des loyers qui compense les APL, tout ça, ce qui fait des revenus en moins forcément pour les bailleurs sociaux. Compensé par des solutions présentées par le gouvernement, plus ou moins compensé, ça ils vous expliqueront mieux que moi. Et du coup, les bailleurs sociaux s'inquiètent d'avoir moins de revenus, donc de pouvoir moins construire de logements sociaux et moins pouvoir entretenir les logements sociaux existants. Et donc la question, c'est qu'est-ce que vous faites pour solutionner cette problématique et cette inquiétude des bailleurs sociaux ?
Le dialogue trop vite bouclé avec les différents acteurs concernés.
La question est trop longue.
Afin de revenir sur cette mesure injuste à différents niveaux.
Merci, monsieur le député.
Je pense que ça a tenu tout juste dans les 2 minutes.
Jacques Mézard, ministre de la Cohésion.
Et c'est Jacques Mézard qui lui répond.
Monsieur le Président, mesdames...
Je pense que l'opposition n'est pas contente parce que c'est pas le ministre du Budget qui répond.
Je voulais vous dire que le dialogue n'a jamais été rompu, que chaque jour, nous le maintenons au ministère de la Cohésion des Territoires. Ce dialogue, il continue à être poursuivi et bien évidemment, je tiens à vous dire que dans ce secteur, oui, il faut une restructuration et cette restructuration... Elle est d'ailleurs reconnue par la grande majorité des intervenants. Oui, il existe une diversité considérable entre les différentes structures. Je ne reviendrai pas sur les conclusions de la Cour des comptes. Vous les connaissez. Ce que nous voulons, c'est créer avec les acteurs un modèle nouveau, performant. Et tous les efforts qui sont demandés pour aboutir à une baisse de loyer, je vous le dis formellement, seront compensés par des moyens supplémentaires apportés par l'État. Le gouvernement, en apportant ses moyens a proposé, et ça a été l'objet d'un courrier officiel du Premier ministre, la stabilisation durable du livret A, la mise en place d'une enveloppe de prêts de 4 milliards d'euros à taux fixe, la mise en place de 2 milliards de prêts de haut de bilan, 600 millions...
En gros, le gouvernement qui répond que l'État propose des solutions de financement différentes et nouvelles, intéressantes en soi, pour compenser cette problématique de source de financement pour les bailleurs sociaux.
Rénovation énergétique, nous allons dans ce sens. Oui, je vous le dis, le dialogue continue et nous allons arriver à moderniser ce secteur.
Et donc, la volonté du gouvernement, c'est de moderniser le secteur.
La parole est à Madame Pascale Fontenelle-Personne.
Monsieur le Président, chers collègues, cette question s'adresse à ma nièce Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé.
Pascale Fontenelle, vous en rappelez peut-être, c'est elle qui proposait, c'est l'agence de voyage dont elle est propriétaire, qui proposait des visites de l'Assemblée nationale payantes.
Elle est apparue comme une réponse efficace à ce défi.
Elle s'est défendue en disant que ce n'est pas la visite qui était payante, mais le transport et la restauration depuis la Sarthe, d'où elle est origine.
Donc une meilleure maîtrise des coûts de santé.
Et qui n'a pas eu de visite depuis son élection.
Malgré les atouts non négligeables, la télémédecine peine à se développer en France, où les cas de zones peu denses se multiplient. Dans une petite commune sartoise, il n'y a plus aucun service de radiologie. Pour passer une radio, les habitants du secteur doivent se rendre au Mans, à plus de 30 km. Des médecins ont alors récemment imaginé...
Question de désertification médicale, une question choupa pour que le gouvernement puisse présenter ses solutions pour faire face à cette situation.
Il éviterait aux patients de faire de la route et les caisses généreraient ainsi des économies en transport sanitaire. Mais...
Transport sanitaire, c'est les ambulances, les VSL, etc.
Mais le projet bloque et sort... Mais le projet bloque et se heurte aux réticences de l'ARS et de la CEPAM.
ARS, Agence régionale de santé, CEPAM, Caisse primaire d'assurance maladie.
La télémédecine doit signer un contrat avec l'ARS qui prend en
Perceval, demandeur d'APL qui fait un don de 5 euros, suivant un futur ministre du bon mot et de la blague vaseuse.
Très innovante. Les conséquences de cette situation.
Merci beaucoup, Perceval.
Le sentiment d'abandon sur le recul des services publics en ruralité. Le déploiement de la télémédecine est un engagement du président de la République. Le gouvernement connaît les autorités formidables qu'offre la télémédecine dans la lutte contre les déserts médicaux. Cela doit se traduire par des mesures concrètes. Je vous demande donc, Madame la Ministre, de préciser les mesures que le gouvernement compte mettre en place. Merci. Merci.
Voilà, Madame Fontenelle, la députée Fontenelle qui... Fontenelle.
Les députés, si certains ont envie de s'exprimer, ils demandent à leur président de groupe avoir une question d'actualité plutôt que de hurler depuis son siège pendant qu'un collègue s'exprime.
Un petit rappel à l'ordre de la part de François de Rugy. C'est vrai qu'il a semblé assez dissipé aujourd'hui.
De la santé et des solidarités.
Et donc, Madame Fontenelle, personne qui parle de la télémédecine comme une des solutions possibles. Mais ralenti par certaines administrations.
Madame la députée Fontenelle-Personne, je vois que le sujet intéresse. Monsieur le Premier ministre a présenté vendredi un plan pour renforcer la présence médicale dans les territoires et lutter contre les déserts médicaux. Vous avez raison, la télémédecine est un enjeu majeur. Jusqu'à présent, elle faisait l'objet d'expérimentations qui ont mis du temps à se déployer sur le territoire. Nous avons donc prévu dans le projet de financement projet de loi de financement de la sécurité sociale de faire rentrer la télémédecine dans le droit commun. Cela veut dire que les téléconsultations et que la téléexpertise pourront être financées par les tarifs de la sécurité sociale, la négociation entre les médecins libéraux et l'assurance maladie.
Donc la télémédecine va devenir légale en France, ce qui n'était pas le cas jusque-là, elle était à titre expérimental dans certains secteurs.
Puisqu'elle est déjà d'usage courant par les professionnels. Par ailleurs, nous allons débloquer dans le grand plan d'investissement...
Légaliser, se dire aussi remboursé par la Sécu.
...pour développer la santé numérique. Mounir Majoubi est en charge de m'accompagner dans ce projet, puisqu'il va falloir équiper...
Mounir Majoubi, c'est le secrétaire d'État au numérique.
...les établissements de santé, les EHPAD, de façon à pouvoir transmettre, évidemment, les images pour la télémédecine et la téléexpertise. Tout cela débutera dès le 1er janvier 2018. Par ailleurs, j'ai saisi la Haute Autorité de Santé de façon à ce qu'elle encadre les actes qui devraient échapper à la télémédecine si jamais nous faisons prendre des risques à certains patients. Je vous remercie.
Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Luc Mélenchon.
Monsieur Monsieur le Premier ministre,
il y a du bruit aussi pour l'opposition.
Pouvez-vous me confirmer l'information qui circule et qui ne m'a pas été encore confirmée, selon laquelle une bande de violents avait imaginé d'agresser des lieux de culte musulmans et d'attenter à la vie de M. Castaner et à la mienne? Dans la mesure où il s'agit du ministre des Relations avec le Parlement et d'un président de groupe d'opposition, j'estime que le Parlement tout entier peut se sentir visé. Je crois exprimer le point de vue de tous mes collègues sur tous les bancs lorsque j'adresse à ces énergumènes le message suivant. Rien, jamais, aucune menace ne fera jamais céder aucun d'entre nous dans le devoir de représenter la liberté d'expression du peuple français.
Jean-Luc Mélenchon qui est applaudi par l'ensemble de l'hémicycle.
Merci mes chers collègues.
Bon, circonstance très particulière, mais il faut le noter. Comme vous le savez ou pas, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, il y a une dizaine de personnes qui ont été interpellées suite à des projets d'attentats.
Au nom du groupe La France Insoumise,
contre différents représentants politiques.
Solidarité personnelle. Comme nous l'avions fait au moment où M. Fillon, M. Macron et Mme Le Pen avaient été menacés précédemment.
Pendant la campagne présidentielle.
Tel que celui-ci, je n'ai l'intention naturellement de ne passer à aucune forme de polémique. Je me permets une suggestion, M. le Premier ministre. Le ridicule qui comptait nous assaillir a été arrêté le 28 juin. 4 mois plus tard, je l'apprends. J'estime que M. Castaner et moi sommes hommes assez mûrs pour évaluer les menaces qui pèsent sur nous tout seuls. Et j'aurais apprécié d'en être informé pendant les 4 mois pendant lesquels j'ai continué à me transporter en métro et à pied et ainsi de suite. Je ne fais de grief à personne. Je suggère qu'à l'avenir, les personnes qui seraient visées de cette façon soient prévenues à temps. Et lorsque l'information arrive de ces arrestations, que peut-être on se donne un délai d'une demi-heure pour en informer des gens comme nous qui avons des familles, qu'il est ensuite extrêmement difficile de ramener au calme, comme vous le comprenez. J'achève. La radicalisation des groupes d'extrême droite est un problème pour beaucoup d'entre nous.
Merci. À Marseille, ma question dépasse les 2 minutes.
Une permanence. À Marseille, dans ma ville, une permanence existe dans ma circonscription où la personne qui comptait me faire un mauvais sort...
Le sujet est particulier, mais le...
La parole est à monsieur le Premier ministre.
Difficile sur ce genre de situation de couper la parole, mais en même temps... Oui, j'ai vu Alexandre, merci. Donc la réponse d'Edouard Philippe.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés.
Cette question du terrorisme contre les élus et des menaces.
Je vous confirme, monsieur le Président, l'interpellation récente d'une dizaine de personnes, dont une femme et 3 mineurs, dans la région de Marseille et en Seine-Saint-Denis, dans le cadre d'une enquête sur les projets d'action violente fomentés par un individu dénommé monsieur Nizine. Lui-même, comme vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, interpellé en juin dernier. Ces personnes ont été placées en garde à vue. Je peux difficilement aller plus loin, mais vous le comprenez parfaitement et vous ne l'avez d'ailleurs pas demandé. Je peux difficilement aller plus loin dans la diffusion d'informations puisque l'enquête judiciaire
est en cours.
Je veux néanmoins vous indiquer que les services de police sont en lien est pleinement mobilisé avec l'autorité judiciaire pour faire toute la lumière et prendre toutes les décisions qui s'imposent. Si ou lorsque une menace précise et caractérisée est identifiée contre une personne, qu'elle soit un citoyen, un intellectuel qui, par des prises de position, a pu se faire remarquer. Et vous savez comme moi, Monsieur le Président, nous savons tous ici qu'un certain nombre de journalistes ou d'intellectuels se trouvent dans cette situation. Un parlementaire, c'est votre cas, Monsieur le Président. Un membre du gouvernement, c'est le cas de Monsieur Castaner. Lorsque une menace précise et caractérisée est identifiée, bien entendu, nous prenons les mesures qui s'imposent en informant directement les personnes qui sont soumises ou qui sont l'objet de cette menace et en prenant les dispositions de protection requises par l'évaluation de cette situation. Nous le faisons, Monsieur le Président, heureusement un peu souvent, mais malheureusement régulièrement. Cela arrive. Et tous ceux qui se sont trouvés dans cette situation, il y en a heureusement peu, le savent et peuvent en témoigner. Je comprends parfaitement votre demande, Monsieur le Président, elle est formulée en termes totalement dénués de polémique, ce dont je vous remercie sur ce sujet, et elle est à la fois très compréhensible et parfaitement respectable. Je serais volontiers amené à donner droit à cette... ce n'est pas véritablement une demande, c'est une demande, allons, disons-le. J'y donnerais volontiers droit...
Un peu compliqué de répondre à la question.
Moi, Monsieur le Président, et je crois que vous pourrez me rejoindre sur ce sujet, qu'en la matière, il faut laisser aussi, peut-être pas seulement, mais aussi aux forces de l'ordre
et à l'autorité
judiciaire qui mène l'enquête, le soin de déterminer si nous sommes dans quelque chose qui est caractérisé et sérieux, et le soin de mener son enquête sans fragiliser, dès lors qu'on est sûr qu'il n'y a pas de menace réelle et sérieuse, sans fragiliser l'enquête qui est en cours. Mais je pense que la question que vous posez et la situation dans laquelle nous nous trouvons impose que, de manière constante, nous réinterrogions nos procédures et l'attitude que nous avons face à ce type de menace. J'aurai l'occasion d'évoquer ce sujet directement avec Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, et je propose, Monsieur le député, que nous ayons la possibilité à l'occasion de poursuivre cet échange et cette discussion et d'en faire état, bien entendu, à l'ensemble de
Donc le gouvernement qui répond qu'en fait, ça ne dépend pas du gouvernement, mais des procédures judiciaires. L'enquête est en cours et si la police a déterminé que ce n'était pas pertinent de donner l'information...
En terminer par là, monsieur le
directement.
Député, vous êtes adressé à la représentation nationale.
Je trouve ça logique.
Rien ne pourrait faire changer d'avis quiconque ici, et certainement pas les menaces. Je voudrais dire au nom du gouvernement... que c'est une superbe, même si elle ne me surprend pas, mais c'est une superbe attitude de la représentation nationale qui fait honneur à notre démocratie.
Merci, monsieur le
Président. Des moments rares dans l'Assemblée.
La parole est à madame Nathalie Sarle.
Et ça change du bruit du début de QAG.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à madame la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Le Premier ministre a réuni le 20 septembre dernier un comité interministériel du handicap sur le thème « Vivre avec un handicap au quotidien ». L'organisation de ce premier comité interministériel du quinquennat, dès le mois de septembre, a permis de rappeler que l'inclusion des personnes en situation de handicap est une priorité du quinquennat, qui devra alors être déclinée au sein de chaque ministère. Le Premier ministre a annoncé la revalorisation de l'allocation adulte handicapé dès 2018, conformément...
Une question de la députée Nathalie Sarle sur la politique du handicap
sera portée à 860 au gouvernement euros dès le 1er novembre 2018.
Question ce qui pas, évidemment.
Une hausse moyenne de 48 euros pour 900
juste une précision sur la question précédente. Christophe Castaner avait parlé également de cette histoire d'attentat, de prévision d'attentat sur sa personne au Conseil des ministres. Il avait dit également qu'il avait été informé seulement hier de cette situation.
Il présentera une hausse de 11% en deux ans, soit l'équivalent d'un 13e mois, si l'on peut dire, d'allocation, et donc une augmentation de pouvoir d'achat conséquente. Pour autant, le Premier ministre a également annoncé que cette revalorisation serait accompagnée d'une simplification de certains dispositifs connexes. Je pense notamment au complément de ressources et à la majoration pour la vie autonome. Et celle-ci génère beaucoup d'inquiétudes de la part des allocataires. Pouvez-vous nous éclairer, Madame la Ministre, sur le contenu de ces mesures afin que nous puissions collectivement rassurer les associations...
Donc Nathalie Sarle, elle est députée...
Et surtout les allocataires. Je vous remercie.
J'ai des informations divergentes. La République en marche.
La parole est à madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées.
De la Loire, elle est infirmière.
Mesdames et messieurs les députés, madame la députée, vous me donnez l'occasion de revenir devant vous pour vous parler d'une priorité, en effet, du quinquennat, le handicap.
A priori, elle était modem, elle est passée République en marche.
De la République. Afin de lutter contre la pauvreté subie de personnes auxquelles le handicap empêche une pleine activité, et surtout soutenir par la solidarité nationale ceux qui en ont le plus besoin. Cet engagement est-il tenu ? Oui, absolument.
Vous l'avez évidemment, indiqué, la ministre ne va pas dire que les engagements du gouvernement ne sont pas tenus.
Que nous mettons en œuvre. Elle viendra porter en 2 ans le revenu minimal social à 900
euros. On a déjà parlé hier, l'AAH va augmenter progressivement pendant 2 ans jusqu'en 2019 pour monter à 900 euros.
2,5 milliards d'euros sur le quinquennat que fait la nation au profit de la participation des personnes en situation de handicap pour leur permettre une vie plus digne, plus libre, en inclusion. Et l'engagement de la simplification aussi est tenu. Nous allons rapprocher, je dis rapprocher, non pas aligner, les règles de calcul de l'allocation pour les couples, trop différentes de celles des autres minima. J'entends dire de ce fait que les couples seraient exclus de la réforme, que 230 000 bénéficiaires vont voir leurs droits stagner, c'est faux. Plus de 150 000 bénéficiaires en couple vont bénéficier pleinement de la revalorisation. Cela va représenter pour eux un gain de 180 euros.
Donc une simplification des règles pour que ce soit plus simple.
Strictement préservé et stable à la hauteur de 1 620 euros au-dessus du seuil de pauvreté. Alors oui, certains couples dont le revenu est supérieur ne bénéficient
pas. On est en train de perdre le chat par contre, à cause de Jennifer, forcément.
C'est conforme à l'esprit de cette mesure que d'aider le plus ceux qui en ont le plus besoin. Nous simplifierons également, mais pas avant 2019, les deux compléments de ressources. Deux objectifs prioritaires nous guideront. Supprimer toute double évaluation et pour lesquels l'achat est fléché les financements pour ceux dont la charge de logement est le plus élevée. Toute projection sur les gagnants ou perdants de cette mesure relève de la spéculation et nous travaillerons ensemble avec les associations à ce sujet. Je vous remercie.
Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Isabelle Florenne.
Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Monsieur le Ministre, je souhaite évoquer ici la situation que connaît actuellement la préfecture de Nanterre, mais qui peut concerner, je le crois, de nombreuses autres préfectures. Depuis près de 4 mois, l'accueil des demandeurs d'asile et des étrangers en situation régulière souhaitant renouveler leur titre de séjour enregistre d'importants retards, et ce, en dépit des nombreuses actions et dispositifs mis en place par les services préfectoraux. Je tiens à cet égard à saluer le travail considérable mené par le préfet des Hauts-de-Seine et celui.
Donc la question sur l'organisation des préfectures, notamment celle des Hauts-de-Seine, puisque Isabelle Florenne est députée des Hauts-de-Seine, députée MoDem.
Les importants n'ont pu totalement résorber les retards accumulés.
Elle est attachée territoriale au Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, bien connu des fonctionnaires territoriaux. Organisme de formation notamment, entre autres.
Cette situation, ce phénomène s'accompagne depuis peu d'un commerce.
Elle a été pendant 12 ans assistante parlementaire de son père Jean-Marie Van Lerenberg,
administratif,
sénateur.
Et donc aussi sur le plan
sécuritaire. Il n'était pas sénateur MoDem, lui ?
Outre ces difficultés, je tiens à souligner que les retards accumulés.
Elle a quitté son poste avant l'élection de 2017.
Des conséquences néfastes pour les requérants, certains d'entre eux pouvant même risquer la perte de leur emploi. Cette situation, provoquée par la mise en liquidation de la société Facem Management et la fermeture de la plateforme d'accueil qui l'a suivie, appelle des solutions pérennes et une réflexion autour de la gestion de l'afflux des dossiers au sein des services préfectoraux. Aussi, je vous demande, Monsieur le Ministre, de bien vouloir m'indiquer les mesures qui pourraient être envisagées collectivement afin de soulager les services et ainsi permettre de retrouver un délai raisonnable de traitement des demandes. Merci.
Merci, Madame.
Voilà une question d'explication sur les dispositions du gouvernement pour améliorer le fonctionnement des préfectures.
Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés.
C'est Christophe Kestener qui répond.
Vous soulevez à la fois un exemple et un cas d'un territoire en particulier, mais aussi une problématique plus globale de l'accueil de celles et ceux qui, en France, demandent la reconnaissance et les papiers. Je crois que dans ce pays, depuis de trop longues années, on a pensé que la complexité administrative pour demander des papiers était un élément qui allait permettre de diminuer le nombre de demandeurs. Alors celles et ceux qui ont fui leur pays, qui quelquefois ont fui pour survivre, n'ont jamais peur de faire la queue pendant 2 jours, 3 jours devant une préfecture. Et la situation que vous soulevez est effectivement globale et c'est celle de la gestion.
Mouvement démocrate et apparenté, c'est quel parti ? Mouvement démocrate.
Et le Premier ministre l'a annoncé, présentera dans quelques semaines un projet de loi sur l'immigration et sur l'asile pour faire en sorte qu'aucun demandeur d'asile ne voit son dossier instruit dans des conditions qui sont quelquefois inhumaines et qui peuvent durer jusqu'à 18 mois à 2 ans. Et l'objectif est que ce délai total d'instruction soit de 6 mois. Dans le cas particulier de la préfecture de Nanterre...
Délai d'instruction de 6 mois maximum.
Notamment
pour les demandes d'asile désormais,
pour améliorer
au lieu de 18 à 24 mois dans les pires cas présentés par Christophe Castaner.
La sécurisation des alentours afin de garantir à tous les usagers un accès dans de meilleures conditions et de mettre fin au trafic de tickets. Aujourd'hui, des dispositions ont été prises. Le trafic des tickets est éradiqué sur le site de cette préfecture. Et je peux vous dire que ces 700 personnes...
Le trafic des tickets, c'est comme dans beaucoup d'administrations aujourd'hui, comme à la boucherie dans votre supermarché à l'époque. Vous prenez un ticket et ça définit l'ordre de passage.
Des personnes supplémentaires pour gérer ça, mais plus globalement.
Donc visiblement, il y a des trafics de tickets, il y a des reventes de tickets.
Qui ne pouvaient être présents aujourd'hui.
Alors, j'imagine que ça se fait moins dans les boucheries que dans les préfectures. Mais...
Pour traiter des questions de sécurité.
Peut-être que je me trompe.
Le déploiement de 150 personnes dans nos préfectures pour faire en sorte que les conditions d'accueil et d'examen soient plus humaines.
Merci, monsieur le ministre.
Déploiement de 150 personnes en plus dans les préfectures. Monter les effectifs pour améliorer l'humanité du processus.
Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, il y a quelques semaines était annoncée la fusion entre le français Alstom et l'allemand Siemens. Pour donner naissance.
Comme dans chaque QAG depuis le début de la session parlementaire, on a une question sur le rapprochement entre Alstom et Siemens.
Justifiait cette fusion avec l'objectif de lutter plus efficacement contre le numéro 1 mondial du ferroviaire, le chinois CRRC. De numéro 1 mondial, il en est aussi question avec la Compagnie des Alpes. Premier opérateur mondial de remontées mécaniques, la Compagnie des Alpes. Au résultat profitable, est aujourd'hui détenu à 40% par la Caisse des dépôts et consignations. Or voilà,
qui est un organisme
depuis
d'État.
Plusieurs semaines, un certain nombre de rumeurs circulent s'agissant du devenir capitalistique de cette société. Des investisseurs chinois pourraient rentrer dans le capital. On parle aussi d'une privatisation totale. Moins d'investissements dans les stations de ski françaises.
Donc la Compagnie des Alpes qui gère les remontées mécaniques, qui produit, je pense, plutôt les remontées mécaniques dans beaucoup de stations.
Vous ne pouvez pas dire
qui est une entreprise française numéro un au monde, d'après le député Vincent Roland, député républicain de Savoie, ce qui paraît assez logique du coup.
Dans la Compagnie des Alpes.
Et qui s'inquiète de la possible privatisation, donc la vente des parts de la société par la Caisse des dépôts et consignations.
Pas d'action, qu'elle
si possible, possiblement à des entreprises chinoises.
Confirmer.
Et donc ils s'inquiètent qu'on se pose des questions sur la Compagnie des Alpes, alors qu'on a pris en compte la possibilité par Alstom de se rapprocher de Siemens pour ne pas avoir des investisseurs chinois chez eux.
La stratégie du gouvernement est bien le maintien des centres de décision en France. Je vous remercie.
Merci, monsieur.
Et donc il met sur le même plan le transport ferroviaire et les remontées mécaniques.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député...
Député Vincent Roland, qui est collaborateur parlementaire.
Comparaison n'est pas raison. Et je ne suis pas certain qu'on puisse comparer la fusion...
Et il est très engagé sur le tourisme local, ce qui a du sens du coup avec les remontées mécaniques.
Si vous voulez faire une comparaison, faites-la avec le groupe Club Méditerranée, qui a trouvé un nouvel élan dans une alliance avec les Chinois.
Le Club Med.
C'est une magnifique entreprise. C'est 5000 emplois, c'est 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une implantation partout en France, c'est une présence en termes de remontées mécaniques dans quasiment toutes les stations de ski françaises. C'est une présence dans les plus grands parcs d'attractions de France, je pense au Futuroscope, je pense au parc Astérix. Nous veillerons au bon développement de la Compagnie des Alpes. Nous veillerons à ce que les emplois soient préservés. Nous veillerons à ce que les sites économiques soient préservés. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec le président du conseil départemental de la Savoie.
Bruno Le Maire qui dit qu'il va faire attention. Mais je pense qu'il ne va pas prendre d'engagement plus précis.
La Compagnie des Alpes doit se développer. Elle doit trouver des partenaires. Mais les deux lignes rouges que nous fixons sont simples. Nous devons maintenir l'emploi en France et maintenir le développement des sites sur le territoire français. Je vous remercie.
Merci, donc, Bruno Le Maire qui répond qu'il peut y avoir des investisseurs chinois, il n'y a pas de problème tant qu'on maintient l'emploi en France et qu'on développe économiquement les sites en France.
Madame la ministre, lors des assises de la mobilité organisées le 19 septembre dernier, vous aviez annoncé le lancement rapide d'une mission de concertation avec l'ensemble des parties prenantes chargée d'aborder...
La question est aussi rapide que la mission dont il parle.
L'organisation de la desserte TGV, le prix des péages, la réorientation des investissements...
Et il veut faire tenir sa question 2 minutes, il est à fond là.
Force est de constater que vous avez tenu parole. Le gouvernement l'a confié à une personnalité extrêmement qualifiée dans le domaine des transports, en la personne de Jean-Cyril Spinetta, ancien président d'Air France. Je partage, et je crois pouvoir associer l'ensemble de mes collègues députés, votre objectif. L'écriture d'une nouvelle loi d'orientation des mobilités qui réponde enfin aux attentes des Français. Les Français sont attachés à l'idée de pouvoir obtenir un service de qualité dans leurs déplacements, chose que le ferroviaire leur permet depuis plus d'un siècle. Mais nous faisons face à des difficultés dans les territoires qui imposent cette grande rénovation annoncée par le président de la République. En effet, la question de la desserte des territoires est importante. Mais ces derniers jours, une ambiguïté s'est installée en France sur le niveau de desserte de notre territoire et singulièrement de la desserte par TGV. Vouloir réorienter des investissements vers les liaisons régionales du quotidien est une excellente chose que nous soutenons. Mais le maintien d'une offre de liaison TGV est importante pour nos citoyens dans les territoires, que ce soit pour le travail ou pour les déplacements.
Damien Pichereau, qui est député de la Sarthe, un deuxième député de la Sarthe aujourd'hui, tiens,
dans des communes de moins de
député en marche,
sont desservis directement par le TGV.
Membre de la commission développement durable et aménagement du territoire, il est commercial dans le secteur automobile.
Si le modèle économique du ferroviaire doit et peut être repensé, il ne doit pas priver nos territoires d'une activité économique propre à leur développement. Je suis d'ailleurs déçu de voir mes collègues de droite qui ne s'intéressent pas à nos territoires ruraux a priori.
Ainsi, Ouh, le clash.
Attention en matière de desserte ferroviaire des territoires,
ça troll.
Notamment par le TGV, et ainsi, j'en suis sûr, rassurer l'ensemble de nos concitoyens. Merci.
Merci, monsieur le député. La parole est à madame Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports.
Et donc, c'est la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui va lui répondre.
Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député.
Déjà une question sur ce sujet hier.
Vous êtes très attaché à ce que le TGV demeure un transport pour tous.
À chaque nouvelle réforme du transport et des liaisons TGV en France, il y a toujours les élus locaux qui défendent les dessertes dans leur circonscription. Ce qui est assez logique.
Des villes petites et moyennes et pas seulement des grandes métropoles. C'est un choix qui a été fait il y a plusieurs décennies et que nous assumons collectivement. Et je voudrais le dire très clairement pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, je n'ai jamais annoncé qu'il y aurait des fermetures de gares ou de lignes TGV. Mais au moment où nous débattons dans le cadre des Assises nationales de la mobilité, je pense important que chacun soit conscient que ce choix collectif a un coût et qu'on ne peut pas tout à la fois vouloir un TGV...
La ministre qui explique que c'est pas moi, j'ai rien dit, il n'y aura pas de fermeture, mais
à la SNCF,
de payer en même temps,
des péages très chers,
ça arrivera peut-être.
Faire circuler ces trains sur les lignes
à il faut repenser globalement les coûts que ça engendre et s'il n'y a pas des solutions alternatives.
C'est indispensable à la pérennité d'un modèle dans lequel nous avons investi et auquel nous sommes attachés. Et au-delà de cette question, c'est bien le sens de la mission que le gouvernement vient de confier à Jean-Cyril Spinetta. Elle doit permettre à l'État de se doter d'une stratégie globale et cohérente pour préparer le transport ferroviaire de demain. Et je suis personnellement attachée à ce que le transport ferroviaire ait toute sa place dans une politique globale de mobilité qui doit répondre à la fois aux besoins de tous nos concitoyens, notamment...
Le gouvernement qui répond que c'est une stratégie globale à adopter et que la question n'est pas encore à savoir dans le détail chaque desserte, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on décide.
La parole est à monsieur Pierre Morel-Alussier.
Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Au terme de la loi, le service universel de téléphonie fixe est censé fournir à tous un raccordement à un réseau fixe et un service téléphonique de qualité à un prix raisonnable. Entre 2013 et 2016, le groupe Orange a été l'opérateur en charge de ce service. Or, durant ces 3 années, Orange s'est montré incapable d'assurer un service de qualité, notamment au milieu rural. On ne compte plus les nombreux dérangements avec des poteaux cassés, des fils à terre, un SAV défaillant, des réparations bricolées et j'en passe. Ce sont ainsi des centaines d'abonnés qui payent, qui se voit privé de téléphone fixe pendant plusieurs mois.
Donc un point de téléphone fixe.
L'ARCEP a ouvert 2 enquêtes administratives en mai 2014 après avoir constaté...
S'il y a des problèmes sur les lignes téléphoniques, est-ce qu'il n'y a pas de problème sur l'Internet également ?
Lui-même a dénoncé une véritable discrimination territoriale selon que l'on vit dans la ville ou à la campagne. Depuis novembre 2016, le groupe Orange n'est plus l'opérateur du service universel. Un appel à projet a été ouvert en janvier 2017 auquel le groupe Orange a répondu. Ma question est double. Quand connaîtra-t-on enfin l'opérateur chargé du service unique ?
Pierre Morel à l'huissier, il est avocat.
Quelles garanties seront apportées par l'État sur la qualité de service pour éviter les errements rencontrés avec le
député républicain de Lozère depuis 2001,
monsieur le député, la
très engagé sur la ruralité, membre du Conseil national de la sécurité civile, et il a déclaré à propos de Laurent Wauquiez, si Wauquiez m'emmerde, je députés, me casse. Fin de citation.
Pierre Morel à l'huissier, je vous confirme que Orange a été désigné comme opérateur pour le service public universel de téléphonie fixe pour la période de 2017 à 2020.
Donc c'est Orange de 2017 à 2020 qui va continuer à assurer les liaisons, qui est l'opérateur désigné par l'État pour entretenir les lignes.
Et au-delà. Je partage votre appréciation sur les défaillances d'Orange vis-à-vis de tous ceux, notamment en territoires ruraux, qui utilisent encore le téléphone fixe. Je partage votre préoccupation à l'égard de tous ceux qui sont concernés, en particulier les personnes âgées. Nous avons donc demandé à Orange de respecter strictement ses obligations. Nous avons fixé un nouveau cahier des charges, plus strict. Nous avons demandé à l'ARCEP de veiller rigoureusement au respect de ces cahiers des charges et nous prévoyons un durcissement des sanctions si jamais Orange ne remplit pas ses obligations en termes d'entretien du réseau de téléphonie fixe pour tous les Français, où qu'ils se trouvent.
Un don de Gultix, car Sylvain est le meilleur. Jean, bon rétablissement. Merci Gultix.
Au nom du Premier ministre, notre attachement aux territoires ruraux. Il ne doit pas y avoir en France les territoires qui gagnent et les territoires qui perdent. Les territoires qui ont tout et ceux qui n'ont rien. Nous avons.
Alors, ce qui est sous-entendu, c'est que Orange s'intéresse beaucoup plus à la ville, parce que c'est le.
2022, la couverture.
C'est plus rentable. Il y a plus de. Il y a plus de clients en surface par rapport au matériel utilisé. Pour une ligne en ville, il y a plus de. Il y a plus de clients que pour une ligne à la campagne.
Les territoires ruraux, Monsieur Pierre Morel à l'huissier, nous les portons.
Pourquoi c'est Bruno Le Maire qui répond? Parce qu'il a décidé de répondre. Le gros gag, tout simplement.
Monsieur le ministre, la parole est à Madame Danielle Hérin.
Certainement parce que c'est le ministre de l'économie qui définit l'appel d'offres d'entretien des lignes.
Monsieur le ministre, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et j'associe à cette question les députés LAREM de la région Occitanie. Monsieur le ministre, les viticulteurs de cette région
viennent de vivre trois
années difficiles. Les récoltes ayant été touchées successivement par le gel et la grêle. Les récoltes ont chuté de 30% par rapport à l'année dernière. Les conséquences risquent d'être irréversibles pour les tissus économiques et locaux. L'une des explications est la réticence des viticulteurs à recourir aux dispositifs d'assurance contre les aléas climatiques. En effet, en France, seuls 20% des exploitants s'assurent contre près de 80% en Allemagne ou aux États-Unis. À travers nos rencontres avec les organisations viticoles, nous avons pu analyser les raisons de la.
C'est bizarre que ce soit pas un bourguignon qui parle de vin.
À l'égard des dispositifs d'assurance qui n'apparaissent pas.
Il y a du vin ailleurs qu'en Bourgogne.
Les raisons sont les suivantes. Le calcul en moyenne olympique sur 5 ans. Le montant de la franchise. Des négociations sont en cours au niveau européen et semblent avoir acté une baisse de 30 à 20% donc reconnue. Le fait d'assurer un rendement au lieu d'assurer un chiffre d'affaires. Les produits d'assurance proposés qui ne sont pas adaptés. Des négociations sur le thème des assurances sont.
Donc là, une question sur les assurances des viticulteurs par rapport aux dégâts climatiques qui ont été assez nombreux ces dernières années. Et notamment cette année, il y a des secteurs qui ont été très très touchés. Je pense au Jura par exemple et certainement à l'Occitanie. Et d'autres qui l'ont été beaucoup moins, le Champagne et la Bourgogne.
Afin de lancer une réflexion sur des mesures qui pourraient.
Et donc, comment le gouvernement peut soutenir la profession viticole face à ces assurances, pour ces assurances, pour s'assurer des risques climatiques qui sont très très variables et
essentiel. Monsieur le ministre,
très compliqué à gérer.
Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation.
Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Danielle Hérin, vous avez parfaitement raison. Les viticulteurs et la filière viticole en France a subi.
Danielle Hérin était présidente de l'université.
À la sécheresse d'une part, au
député de la première circonscription de l'Aude.
Pour cette année est particulièrement importante. Et nous avons besoin de mobiliser un certain nombre d'outils qui existent aujourd'hui, notamment le volume complémentaire individuel, mais aussi les réserves interprofessionnelles. Aujourd'hui, l'assurance récolte couvre 25% des viticulteurs français et les pouvoirs publics viennent prendre en charge jusqu'à 65% des primes d'assurance qui sont aujourd'hui payées par les exploitants. Des travaux ont été engagés avec la profession. J'ai reçu la filière viticole tout entière il y a quelques semaines au ministère de l'Agriculture pour faciliter une diffusion beaucoup plus large aujourd'hui des différents dispositifs.
Bonjour Néo Delesquin.
La gestion des risques est une composante majeure de la compétitivité aujourd'hui et nous souhaitons au niveau national pouvoir nous rapprocher de ce que peut porter le CSO à travers le conseil et la communication sur la gestion des risques, encourager un certain nombre de démarches préventives et enfin définir...
Nous avons le plan sur Stéphane Le Foll, puisque c'est une question liée à l'agriculture, la viticulture, ancien ministre de l'Agriculture.
...travaux qui sont portés par le CSO et j'ai proposé à la filière viticole que nous puissions monter un pack viticole lorsque nous aurons à négocier la PAC pour que ensemble nous puissions trouver les voies et les moyens les meilleurs pour encourager notre filière viticole et que cette filière à laquelle nous attachons énormément d'importance puisse être au rendez-vous des défis et des enjeux qui sont les siens. Merci Madame la Députée.
Donc il propose un pack viticole pour soutenir les filières en cas de difficulté lors de la négociation de la PAC, politique agricole commune de l'Union européenne. Ça marche pas. Ah, les communistes sont censurés.
Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Un été meurtrier, voilà le jugement sans appel sur votre politique que porte l'Association des maires de France le 12 octobre dernier.
Un été meurtrier, c'est quand même un terme très très fort.
Premiers acteurs et entrepreneurs de la cohésion sociale et territoriale. Parmi eux, les élus locaux de la ruralité et des villes de banlieue, qui témoignent de leur colère et de la colère de millions de Français et de centaines de territoires victimes des pires inégalités. En effet, aux politiques de droit commun, logement, santé, eau, énergie, que la majorité présidentielle marque du sceau de l'austérité, s'ajoute le traitement que vous infligez aux dispositions censées faire jouer la solidarité nationale en faveur de nos concitoyens et de nos territoires les plus éprouvés. Au mieux, vous sanctuarisez vos engagements, joli mot pour dire que vous ne faites aucun effort supplémentaire. Au pire, vous diminuez ces mesures qui sauvegardent à minima la cohésion locale. Nous vous demandons donc d'inscrire à votre agenda, suite au succès de la réunion de Grigny, la mobilisation de 100 millions d'euros supplémentaires pour les 50 communes les plus pauvres, l'apport de 500 millions d'euros supplémentaires au budget du Commissariat général à l'égalité du territoire, la consolidation de l'engagement financier propre de l'État en matière de rénovation urbaine pour les pôles ruraux et pour les pôles urbains prioritaires, et la suspension immédiate de la réduction des contrats aidés non marchands qui sont une réponse cruciale au problème du chômage dans ces territoires. Monsieur le ministre, votre budget 2018 met à la peine la cohésion nationale avec l'exonération de plus de 3 milliards d'euros d'impôts sur la fortune. Êtes-vous prêt à examiner ne serait-ce qu'une
donc,
seule...
Le député Vulfranc,
afin d'éviter la merci, double peine pour monsieur la population, le député.
Qui fait feu de tout bois sur tous les sujets possibles financiers,
la cohésion des territoires.
Face au budget, face aux décisions du gouvernement sur les collectivités territoriales, sur le budget, sur l'ensemble des éléments,
la situation
et regrette de ne pas être écouté.
De certains territoires que nous connaissons.
Ah non, la régie, ce n'est pas Julien de Normandie.
Vous avez parlé des territoires ruraux, ne remonte pas à cet été. Aujourd'hui, à quoi assistons-nous ? À dans nombre de ces territoires, effectivement, un sentiment de marginalisation et un recul de la République. C'est une responsabilité collective et nous savons ensemble, mais c'est une réalité qui dépend.
Jacques Mézard qui répond que c'est une responsabilité collective, la situation des collectivités territoriales, c'est pas que du fait du gouvernement actuel.
Qui ont traité de manière
mais il assume aussi.
Ces territoires. Et aujourd'hui, lorsque vous nous dites que nous ne faisons pas assez, je vous rappelle très simplement qu'en ce qui concerne, parce que j'ai écouté le cri qui montait de Grigny, oui, je connais la situation des élus locaux et des maires qui sont confrontés à ces graves difficultés. Nous essayons et nous y travaillons pour apporter des solutions. Nous l'avons fait avec le ministre de l'Éducation sur les 2500 classes qui ont été dédoublées. Nous allons le faire sur la police de proximité. Nous le faisons effectivement.
Pour répondre à une des questions qui a été posée dans le chat, la cohésion des territoires, c'est de faire qu'il n'y ait pas tout pour les grandes villes et rien pour le monde rural. C'est qu'il y ait une cohérence, une cohésion globale et un équilibre sur l'ensemble des territoires pour tous les services publics, toutes les actions de l'État, en fait.
De doubler les budgets,
vous pour faire très simple.
Que ce n'est pas la solution. La solution, c'est d'avoir une politique commune.
Comment on fait pour qu'il y ait du médical à la campagne? Comment on fait pour qu'il y ait des solutions, qu'il y ait des écoles, qu'il y ait tout ça?
Car je l'ai déjà dit, et j'en suis convaincu. Si la République a reculé, c'est notre responsabilité à tous. Et pour qu'elle ne soit pas remplacée par d'autres, et vous savez lesquels, il est nécessaire aussi que nous sachions nous rassembler, comme cela a été le cas tout à l'heure, dans l'intérêt de la République.
Merci, monsieur le ministre.
Voilà une réponse très sèche de Jacques Mézard à la question très sèche du député Hubert Jules Franc, député communiste de la 3e circonscription de Seine-Maritime.
Ma question s'adresse à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Monsieur le ministre, nous sommes nombreux ici à partager une conviction qui est celle d'œuvrer pour réorienter une partie de l'épargne des Français vers les fonds propres des entreprises, pour faire grandir ces entreprises, pour qu'elles innovent plus, se préparent au marché de demain et soient mieux à même de créer de l'activité et des emplois. Cela a été souligné ces jours derniers au sein de notre commission des finances. Les Français, qui sont par ailleurs des champions de l'épargne, sont averses, pour ne pas dire allergiques au risque. Et cela, beaucoup plus qu'ailleurs. Certaines études récentes mettent en lumière que la part d'investissement immobilier des Français est la plus élevée au monde, plus de 10 points au-dessus de la moyenne européenne et mondiale. Par ailleurs, la Banque de France relève chaque année que l'épargne...
Une question Chouba pour justifier la politique fiscale du gouvernement.
...liquide et non risqué.
Pourquoi le gouvernement souhaite que les Français arrêtent d'épargner et investissent dans les entreprises?
Il est indéniable que nous avons eu tendance ces dernières décennies, notamment par nos choix fiscaux, à installer une culture de la prudence et de la frilosité quand nous avions besoin d'un peu plus d'audace, de confiance et d'outils pour le développement de nos entreprises. Monsieur le ministre, le projet de loi de finances est construit pour modifier substantiellement le logiciel français de l'épargne en l'orientant vers ceux qui osent, qui entreprennent et qui portent une ambition collective pour la vitalité économique de notre pays. Nous, députés, voulons pleinement nous emparer de ce sujet et contribuer avec les PME, avec les intermédiaires financiers à des dispositifs d'épargne innovants. Au-delà de ce PLF et de la dynamique qu'il créera, quelles sont, de votre point de vue, les mesures à privilégier pour passer en matière d'épargne d'une culture de la prudence à celle de la confiance et de l'investissement? Je vous remercie.
Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances.
Donc, questions sur les mesures fiscales,
mesdames et messieurs les députés,
pour inciter les Français à investir.
Les Français ne sont pas frileux. Ils sont tout simplement pleins de bon sens. Ils ont compris que la fiscalité sur le capital étant l'une des plus élevées en France de tous les pays européens, il n'y avait absolument aucun intérêt à aller investir leur économie dans l'économie productive, dans les entreprises et dans ce capital. Le taux marginal d'imposition sur les intérêts est en France de 62%. Il est de 26% en Allemagne. Le taux d'intérêt marginal sur les dividendes est de 44% en France. Il est de 26% en Allemagne. N'allez pas chercher ailleurs pourquoi nous avons tellement de mal à trouver du capital pour financer nos entreprises.
Taux marginal d'imposition, je cherche la définition exacte pour ne pas vous dire de bêtises.
Avec le Premier ministre et avec tout le gouvernement. Alléger enfin la fiscalité sur le capital pour que nos entreprises puissent investir, innover et créer des emplois pour tous les Français. Le prélèvement forfaitaire unique à 30% vise à simplifier l'imposition sur le capital, vise à l'alléger et vise à mieux financer notre économie. Parce que l'objectif de ce projet de loi de finances pour 2018, l'objectif de ce choix fiscal majeur, de l'allègement de la fiscalité sur le capital, ce n'est pas pour faire plaisir aux uns ou pour faire plaisir aux autres, c'est pour rendre service à la France et créer enfin dans nos entreprises les emplois dont tous les Français, sans exception, ont besoin. Voilà la mesure majeure que nous défendons, voilà celle que vous aurez à voter demain. Je compte sur votre soutien. Nos entreprises ont besoin de capital pour investir, innover et produire enfin une croissance avec des emplois.
Merci.
Voilà le ministre Bruno Le Maire qui explique que la fiscalité mise en place dans le PLF, le projet de loi de finances, est faite pour inciter les gens à investir, les Français, et d'ailleurs les investissements étrangers, à investir dans les entreprises plutôt que dans l'épargne classique.
Le recul du pouvoir d'achat pour 500 000 personnes en situation de handicap ou invalide. Tels sont les mots de l'AFM Téléthon, de l'Association des paralysés de France, d'Aide, de l'UNAPI et 7 autres associations qui ont lancé conjointement une pétition.
En effet, vous êtes en train de mener un tour de passe-passe en augmentant l'allocation adulte handicapé tout en révisant la baisse des critères d'attribution pour les couples comptant un allocataire.
Ah, c'est dommage que cette question arrive maintenant puisque la réponse a déjà été apportée tout à l'heure.
Je répondis à cette personne qui m'a écrit et qui vous a d'ailleurs écrit aussi. Je le cite. Je me permets de vous contacter aujourd'hui afin d'exposer une situation commune à bon nombre de mes concitoyens. Allocataire de l'AAH pour un handicap permanent à taux plein, j'ai découvert il y a peu que l'AAH sera distribuée comme un RSA. Les revenus du conjoint seront pris en compte dans le calcul. Qu'un RSA se base sur les revenus du foyer est logique, il répond à une situation précise qui se doit d'être temporaire. Mais le handicap, comment justifier le fait qu'en cas de relation, l'handicapé à taux plein se retrouve dépendant du conjoint comme un enfant à charge? L'handicapé n'est pas un poids qu'on transmet de parent à conjoint. Je ne veux pas me retrouver comme un fardeau pour la personne que j'aime. Le droit au mariage concerne aussi les handicapés. Comme cette personne, 250 000 handicapés ne gagneront pas un seul euro suite à la revalorisation de l'AAH, car elles ont le tort d'être en couple. Cette mesure s'ajoute d'ailleurs à la fusion, à la baisse des deux compléments de l'AAH, à la suppression de la prime d'activité pour les pensionnés d'invalidité, à l'augmentation du forfait hospitalier et à la baisse des allocations pour le logement. Vous remettez ainsi en cause des acquis fruits d'un combat de haute lutte. Monsieur le Premier ministre...
Donc là, on passe sur une deuxième partie plus globale qui est moins...
Les premiers de cordée.
Moins de lien avec les questions. Et petit point premier de cordée pour faire référence à l'interview de Macron. Dimanche soir.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous me permettez de revenir encore sur cette priorité du quinquennat par votre question. Et je pense
donc Erika Barrette, c'est députée de La Réunion, la première circo de La Réunion. Elle a été ministre des Outre-mer sous Manuel Valls et secrétaire d'État à l'égalité réelle.
C'est très important.
Elle a été conseillère régionale.
Adulte handicapé. Voilà. Et je voudrais m'exprimer en faux sur cette rumeur qui porte que les couples vont perdre. Personne n'est perdant sur cette revalorisation de l'AAH. Donc les plus de 150
La ministre Sophie Cluzel qui répond que non.
Comme je l'ai précisé, c'est vont faux. Gagner. Je peux vous donner quelques exemples, Madame la députée. Une personne formée par un couple formé de deux bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé toucheront à plein 180 euros de plus par mois. Je vous rappelle que le plafond qui est versé pour un couple le plafond pour un couple est supérieur au seuil de pauvreté et maintenu à 1620 euros. Alors oui, ceux qui dépassent ce plafond ne pourront pas bénéficier de l'allocation, c'est vrai, car nous préférons en effet s'occuper de ceux qui en ont le plus besoin. Tel est l'objet de cette réforme de flécher. Bien sûr que si un couple avec un bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé qui bénéficie aussi d'une activité partielle touchera aussi l'augmentation de l'adulte handicapé. Donc, Madame la députée, je sais que, par exemple, dans les territoires ultramarins, cette allocation est excessivement attendue. En effet, elle pourra tout à fait bénéficier à beaucoup de nos concitoyens. Je rappelle, plus d'un million d'allocataires, plus de 2,5 milliards d'investissements. C'est une mesure qui va sortir de la pauvreté extrêmement nombreuses personnes. Je vous remercie.
Merci, Madame la ministre.
Ziouf qui demande, on fait quoi de nos jours à deux avec 1620 euros par mois? Je précise que l'allocation adulte handicapé est indépendante des autres aides classiques. Ça vient en plus des autres aides pour compenser l'impact du handicap sur la vie quotidienne.
De nombreuses inquiétudes remontent de nos...
Ça remplace pas le RSA.
À propos de la refonte de la politique du logement.
Par exemple.
Par exemple, la communauté d'agglomération Béarn-Pau-Pyrénées, engagée depuis le printemps aux côtés de l'État et de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine.
Merci.
Ce contrat est...
Ça m'invite d'abord à expliquer ce que c'est.
...l'an dernier, lors de la visite de votre prédécesseur, Bernard Cazeneuve. Au total, une quarantaine de millions d'euros de financement croisé de l'ANRU et d'Action Logement est programmé dans la rénovation du quartier Saragosse, où vivent plus de 10 000 habitants. Pour sa part, l'Office palois de l'habitat, partenaire de l'opération, engage une enveloppe de 7 millions d'euros. C'est considérable. Cependant, pourra-t-il tenir ses engagements dans la convention à ANRU avec, demain, des capacités d'autofinancement réduites à ce point? Monsieur le Premier ministre...
Député MoDem qui s'inquiète également de l'évolution de la situation avec des bailleurs sociaux.
Des mesures spécifiques pour les bailleurs engagés dans des opérations en rue. Comment comptez-vous...
En rue, c'est le logement spécifique dans les zones urbaines.
Des loyers supérieurs au plafond des APL et ceux qui...
Elle est députée de la première circo des Pyrénées-Atlantiques.
...des loyers inférieurs à ce même plafond. Dans le même temps, comment ferez-vous la distinction entre les organismes qui bénéficient de réserves financières importantes et ceux qui sont déjà engagés pleinement dans leur mission sociale? En résumé, comment faire les efforts budgétaires nécessaires sans pénaliser les organismes qui appliquent déjà des loyers particulièrement bas? Je vous remercie.
Merci, Madame la députée.
Donc voilà, c'est la députée MoDem, donc dans la majorité gouvernementale. La question est mesurée.
Cohésion des territoires.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
députés. C'est Julien de Normandie qui répond cette fois-ci, et non pas Jacques Mézard.
L'engagement de la ville de Pau sur la rénovation urbaine et notamment votre engagement personnel quant à la rénovation du quartier de Saragosse. La ville de Pau avec la ville de Rennes, d'ailleurs, sont les deux premières villes à bénéficier du nouveau projet de rénovation urbaine avec les 40 millions d'euros que vous venez d'évoquer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est que l'État sera au rendez-vous de la rénovation urbaine. L'État met 1 milliard d'euros pour la rénovation urbaine. Vous savez, ce fameux milliard d'euros, beaucoup ont dit par le passé qu'ils le feraient, ils ne l'avaient jamais fait. On a dit que nous le ferions et nous l'avons fait puisque le projet de loi de finances inclut les premiers crédits pour cette rénovation urbaine. Deuxième chose, il est faux de dire que nous empêcherons les bailleurs sociaux d'investir dans la rénovation urbaine. Vous savez, l'effort que nous demandons aux bailleurs sociaux, nous les compensons. Nous les compensons avec des nouveaux financements que nous leur donnons.
Donc on revient à l'explication de tout à l'heure de Jacques Mézard sur les compensations proposées par le gouvernement face à la baisse des loyers des APL.
C'est 3 milliards d'euros de prêts pour l'efficacité énergétique. Et qu'est-ce que ça permet à la fin, ces prêts sur l'efficacité énergétique? Ça permet de faire diminuer les charges des locataires. Et enfin, dernier point, vous avez raison, Madame la députée, tous les offices, toutes les sociétés HLM ne sont pas logées à la même enseigne. Et donc, il faut pouvoir prendre compte des spécificités. C'est d'ailleurs pour ça que dans le projet de loi de finances, il y a un système de mutualisation qui vise à prendre en compte l'ensemble de ces spécificités. Au final, Madame la députée, on n'a qu'une seule boussole, c'est d'améliorer le cadre de vie de nos concitoyens, et c'est ça qui nous anime, et c'est ça le projet de loi logement que nous porterons.
Merci, monsieur.
Voilà qui conclut cette séance de questions au gouvernement avec cette question sur le logement. Et la séance est suspendue, ça reprendra certainement sur le projet de loi de finances, dont le débat a commencé hier en séance publique. Et bien voilà, une deuxième séance de QSG cette semaine, ça fait 31 questions en tout. Beaucoup de questions. Pour une fois, j'ai fait un gros effort, j'ai pris des notes. C'est fou ça. On dirait que je bosse. Presque. Ça fait rire la régie, je sais pas pourquoi. Alors, de quoi qu'on a causé aujourd'hui, hein, comme disent les gens? On a parlé d'APB, la suppression annoncée d'APB, le logiciel affectation post-bac, dont la suppression a été annoncée par la ministre de l'Éducation. Et qui et dont le successeur n'a pas été présenté. Donc la ministre a expliqué que la nouvelle mouture sera présentée fin des vacances de la Toussaint, fin octobre. Et elle a reconfirmé qu'il n'y aurait plus de tirage au sort. Ça, elle l'avait déjà dit, mais elle l'a reconfirmé. On a eu une question sur la lutte contre la pauvreté avec présentation du gouvernement par le gouvernement. C'est une question, je ne sais pas. Une présentation par le gouvernement des plans de lutte contre la pauvreté, une phase de prévention, une phase de simplification des aides et toutes les procédures pour soutenir les personnes qui souhaitent bénéficier de ces aides, qui ont droit à ces aides en tout cas, et qui n'ont pas forcément les capacités de les solliciter. On a eu 2-3 questions sur les APL, les bailleurs sociaux et les inquiétudes des bailleurs sociaux dont les revenus vont diminuer selon le nouveau budget, mais auquel le gouvernement répond qu'il propose des solutions pour compenser cette baisse, et notamment des solutions de financement à des taux intéressants. On a eu une question sur la désertification médicale. J'ai très mal écrit, donc je dis diversification alors que c'est marqué désertification, ce qui n'a aucun sens. Diversification, du coup. Et la ministre de la Santé a annoncé que la télémédecine allait être légalisée par le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, ce qui veut dire que ce sera remboursé par la Sécu surtout. Je pense que c'était plus ou moins légal déjà, ou en tout cas autorisé, mais c'était pas remboursé par la Sécu. Là, ça pourra l'être. Et donc ça va aider au développement ça va offrir des solutions, des réductions de coûts dans certains cas, puisque les médecins n'auront pas à se déplacer systématiquement dans les territoires les plus éloignés pour des petites consultations, entre guillemets. Les petits guillemets qui vont bien. On a une question de Jean-Luc Mélenchon sur les menaces qui pèsent sur les élus suite à l'arrestation d'une dizaine de personnes. Alors je vais noter, c'était à Marseille et en Seine-Saint-Denis qui ont été placés en garde à vue et qui avaient prévu, qui préparaient des attentats contre Jean-Luc Mélenchon, contre Christophe Castaner, contre des lieux de culte, contre des différents endroits. Et la question portait sur le fait qu'ils n'avaient pas été informés alors que l'un des membres de ce groupe de personnes avait été arrêté en juin. Edouard Philippe ayant répondu que c'est à la police de décider si c'est pertinent d'informer les gens ou pas, alors qu'une enquête est en cours. Mais qu'ils allaient étudier l'évolution des procédures judiciaires à ce niveau-là. On a eu deux questions sur la politique du handicap, avec la hausse de l'allocation handicapée et l'évolution des règles, notamment pour les couples. Et parce qu'il y avait déjà certaines inégalités jusque-là, et... la ministre des Solidarités a expliqué que donc l'allocation handicapée va monter jusqu'à 900 euros en 2 ans et que les règles vont être beaucoup plus cohérentes, beaucoup plus homogènes, beaucoup plus simples en fait. On a une question sur l'organisation des préfectures et notamment des dépôts de demandes d'asile qui sont beaucoup trop longues et c'est souvent des procédures déshumanisées. C'était Christophe Castaner, je crois, qui a répondu que le délai d'instruction allait passer à 6 mois maximum pour chaque demande d'asile. Et que 150 personnes de plus vont être déployées dans les préfectures pour humaniser le processus. Je cite la réponse de Christophe Castaner. On a une question sur la Compagnie des Alpes, les vacances d'hiver approchant, c'est important. Les Républicains, je ne sais plus son nom, de Savoie, qui s'inquiétait de la possible entrée au capital de la Compagnie des Alpes d'investisseurs chinois, et qui achèterait des parts de la Caisse des dépôts et consignations. Je vais essayer d'être plus clair possible. En gros, l'État se séparerait de participation dans cette société, qui fabrique notamment des remontées mécaniques, et de potentiels investisseurs chinois pourraient racheter des parts. Il faisait le parallèle avec Alstom Siemens, le rapprochement de ces deux entreprises franco-allemandes pour faire face aux investisseurs chinois. Le ministre Bruno Le Maire lui a expliqué que ça n'a rien à voir, et que cependant l'État serait vigilant à ce qu'il y ait un maintien de l'emploi en France et que les sites en France continuent à se développer. Voilà, je vais faire une pause parce que là j'ai du mal à parler. Je vais respirer, ça va bien se passer, vous êtes sur Acropolis et tout va bien. Il a été question ensuite des dessertes lignes grande vitesse suite aux assises du transport de la mobilité qui ont eu lieu en septembre. Question qui avait déjà été posée hier, un député qui s'inquiète de la suppression de dessertes potentiellement dans sa circonscription, la ministre lui a répondu que pour l'instant il n'y a rien de prévu en termes de suppression de dessertes ou de gares, mais que les assises de la mobilité doivent permettre d'avoir une vision globale de la stratégie sur la mobilité et que peut-être des décisions seront prises par la suite, parce que c'est vraiment un travail global à faire et il n'y a aucune des décisions prises pour l'instant sur chaque desserte individuellement. Il y a une question sur la gestion des lignes téléphoniques fixes et donc des lignes ADSL. Merci au chat qui m'a répondu tout à l'heure. Donc c'est bien les câbles cuivre qui permettent l'ADSL et les lignes fixes, notamment en zone rurale. Et un député qui s'inquiétait parce que Orange avait assez mal, selon lui, géré l'entretien des lignes entre 2014 et 2017. Et il y a eu un nouvel appel d'offres et c'est de nouveau Orange qui va s'en occuper entre 2017 et 2020. Mais Bruno Le Maire a expliqué qu'un nouveau cahier des charges avait été mis en place et que les sanctions seraient plus dures contre Orange s'ils ne faisaient pas le travail correctement. On a eu une question sur la viticulture et notamment les dégâts naturels qui ont été importants cette année, comme assez souvent en fait ces dernières années, et sur les assurances qui sont possibles pour aider les viticulteurs à faire face aux années où la production est bien en dessous de ce qu'ils pourraient espérer. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, a expliqué qu'il y aurait un pack viticole qui allait être créé pour soutenir les viticulteurs, aussi bien pour payer les assurances que pour compenser les pertes en cas de grands dommages naturels. Alors, il y a une question sur les territoires ruraux. Alors, j'ai marqué, hein, c'est très très mal écrit, c'est marqué territoires ruraux en PLS. Voilà. Les territoires ruraux, c'était la question du député communiste, je crois. Et j'ai arrêté d'écrire à la fin parce que je commençais à fatiguer. les territoires ruraux qui seraient victimes de la politique du gouvernement, le ministre a répondu que c'est la responsabilité de tous les gouvernements qui se sont succédés, y compris le gouvernement actuel, et qu'il allait faire appel à la bienveillance générale républicaine pour trouver ensemble des solutions pour que les territoires ruraux ne considèrent plus qu'ils soient les défavorisés de l'État, sans vraiment annoncer de réponses concrètes. Je vous laisse débattre sur le câble cuivre pour l'hôtel. Je ne maîtrise pas du tout cette technologie, donc je laisse les spécialistes s'occuper de cette question. Il y en a une question sur la fiscalité de l'épargne. Une question choupa d'un député de La République En Marche qui expliquait que... qui demandait au ministre, au gouvernement de justifier leur politique fiscale, Bruno Le Maire qui a répondu que la logique voulait que jusque-là les Français n'épargnaient pas, n'investissaient pas dans les entreprises parce que la fiscalité n'était pas du tout favorable à ça, et c'était logique, et que si on veut que les entreprises disposent de capital et de ressources financières pour se développer, pour être en croissance, pour créer des emplois, etc., etc., il fallait améliorer la fiscalité, ce que fait donc le gouvernement, selon Bruno Le Maire, dans le nouveau projet de loi de finances du budget. Et les dernières questions, c'était à nouveau des questions sur l'allocation adulte handicapé et sur la politique du logement. Et voilà les 15 questions qui ont été posées aujourd'hui. Alors, il y a un claquement de doigts de la part de la régie. Peut-être qu'elle pense que je dors. Ah, la régie bouge les mains. Et la régie danse. Alors on danse. Comme dirait Stromae. Alors, chez moi, c'est encore du cuivre, oui, pour internet et téléphone, Orange est dans le coin pour mettre la fibre, entre guillemets. Voilà, je pense qu'il y a plein de cas particuliers sur tout le territoire. Et il a dit, Guettas, pour que tout le monde s'énerve sur lui sur Twitter, est-ce que... Qui est-ce qui dit Guettas? Il était question de Guettas? La régie est en marche. Non, la régie est bien assise, là. Bien confortablement posée, avec les jambes bien allongées. La régie est pas mal. Je sais pas si vous avez des questions, des choses. Je regardais le taux marginal d'imposition. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on en reparlerait. C'est pas ce que je pensais. Donc j'ai bien fait de vérifier avant de vous dire une bêtise. Alors. Je cherche une définition exacte. Le taux marginal d'imposition correspond au taux appliqué sur la dernière tranche de revenus, les tranches inférieures étant soumises au taux inférieur. Alors, je vous explique avec l'exemple de l'impôt sur le revenu, dont certains produits d'épargne dépendent. L'impôt sur le revenu fonctionne de la façon suivante. C'est un impôt en tranches. Selon le montant de revenus qui sont imposables, il y a des réductions fiscales, il y a des déductions, des crédits d'impôt, etc. Une fois qu'on enlève tout ça, on obtient le taux, le revenu imposable. Sur le revenu imposable, on a des tranches. C'est-à-dire que, j'ai les taux sous les yeux, comme ça je vais vous le dire. La première tranche, c'est de 0 à 9807 euros. Sur les 9807 premiers euros de vos revenus, vous ne payez pas d'impôt. Sur les revenus entre 9807 euros et 27086 euros, c'est-à-dire à peu près 17 200 euros, vous allez payer 14% d'impôt. Seulement sur ce qu'il y a entre 9807 et 27086, pas sur les 27000 entiers. Et de la même façon, entre 27000 et 72000, c'est 30%, entre 72000 et 153000, c'est 41%, et au-dessus de 153000, c'est 45%. Donc c'est vraiment par tranche, c'est pas quand on change d'une tranche, on passe tout au nouveau taux d'imposition. Et c'est pour ça qu'il existe un taux moyen d'imposition, qui n'a rien à voir avec le taux marginal. Le taux marginal, c'est le taux maximum, la tranche maximale. Par exemple, si vous gagnez 30 000 euros d'impôt, vous avez n'importe quoi. Si vous avez 30 000 euros de revenus imposables, vous allez payer 3 000 euros, 30% sur 3 000 euros, qui correspond à la tranche entre 27 000 et 72 000, puisque vous avez 30 000 moins 27 000, ça fait 3 000, calcul rapide. Vous allez payer 14% sur 18 000 euros, ce qui est entre 9 000 et 27 000, et c'est tout, puisque la tranche en dessous elle est non imposable. Donc le taux marginal, c'est le taux maximum d'imposition. pourquoi je dis que ça concerne l'épargne. Sur certains placements, les intérêts que vous touchez sur l'argent que vous avez placé, notamment les certains investissements dans les entreprises, des questions qui est souvent soulevée en ce moment, c'est parce que les intérêts que vous touchez, vous avez la CSG à payer dessus, et vous pouvez déclarer ces revenus, ces intérêts à votre impôt sur le revenu, et en fonction de votre taux d'imposition, vous payez selon le taux d'imposition en question. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. €9 807, c'est même pas un SMIC, c'est normal de payer des impôts en étant en dessous du seuil minimal. Alors, Xan, c'est pas un SMIC effectivement, mais déjà, quand on a les revenus annuels, on pourrait pas passer des heures sur les impôts sur le revenu. Quand on a les revenus annuels, on a la somme de tous les revenus de l'année, effectivement, le SMIC, ça passe au-dessus de €9 807. Mais c'est les revenus de base, c'est le revenu, je vais dire revenu de base, c'est encore autre chose. C'est le revenu de le simple cumul. Après, il y a des déductions qui viennent. Il y a déjà déduction soit moins 10% automatiquement, soit déduction des frais réels. C'est-à-dire tous les frais qu'on engage pour aller travailler, par exemple, pour déjeuner quand on est au travail parce qu'on habite trop loin. Et tout ça, ça peut se déduire de ce total des revenus avant le calcul de l'imposition. Donc même si on touche un SMIC, on peut se retrouver en dessous des €9 807. Je parle bien du revenu imposable et non pas du revenu net qu'on a sur sa feuille de paye, qui est différent. Donc c'est bien plus compliqué que ça en fait. Et après il y a aussi la prime d'activité, enfin, il y a plusieurs mécanismes qui font que c'est pas simplement le revenu que vous avez en bas de votre feuille de paye qui rentre en compte. C'est évidemment plus compliqué que ça, c'est toujours plus compliqué que ça, dans toutes les situations. Je suis assez étonné qu'il ne soit plus du tout question de Saint-Martin. Alors, je reviens sur Saint-Martin après, mais est-ce que j'ai été clair sur l'impôt sur le revenu ou est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? Non, moi je te parle de ce qu'on déclare aux impôts, on est bien d'accord. Oui, on parle de ce qu'on déclare aux impôts. Il y a ce qu'on déclare aux impôts, mais il y a des déductions qui viennent avant l'application du taux, avant de prendre en considération le montant pour le taux. Voilà. Et donc pour finir l'explication, le taux moyen d'imposition, qui est le taux en fait effectif auquel vous payez des impôts, c'est la moyenne entre tout ce que vous payez par rapport à tout ce que vous touchez en fait. Parce que sur 30 000 €, vous avez une petite partie à 30%, vous avez une plus grosse partie à 14% et une partie à 0. On prend le montant global que vous payez et on fait le ratio entre ce que vous payez et ce que vous touchez comme revenu, et ça fait le taux moyen d'imposition. C'est vraiment le taux d'imposition, votre taux d'imposition personnel. Il ne correspond pas à une tranche. Mais c'est à partir de combien que l'on paye? Il n'y a pas de réponse, ça dépend. Chaque cas est différent. Si tu fais des dons à des associations, par exemple, tu déduis une partie de ce don de ton revenu avant le calcul de l'impôt. Tu as des crédits d'impôt si tu fais des travaux, si tu fais des investissements dans certains cas. Il y a ce qu'on appelle les niches fiscales qui permettent de réduire les impôts. Il n'y a pas un montant à partir duquel on bascule en fait. Ça n'existe pas. Chaque situation est différente. C'est ça qu'il faut se dire. Et je vais aussi battre en brèche une autre idée reçue. Il n'y a pas de si on gagne 100 € de plus, on change de tranche et ça change tout. Et on gagne moins d'argent que si on en avait plus. Ça n'existe pas puisque c'est ça barème par tranche. Ce qu'on gagne en plus. Ça, si ça fait passer une tranche à l'autre, on va te payer en plus sur ce qui dépasse, pas sur l'intégralité de ce qu'on touche. Et donc ça c'est une idée reçue, il n'y a pas d'effet de seuil comme on dit. Après je vous dis pas que c'est bien, pas bien, moi je suis là pour vous expliquer comment ça se passe, après chacun se fait son avis. Par exemple pendant la campagne électorale, il y a des candidats qui proposaient d'augmenter le nombre de tranches. De façon à ce que plus les revenus augmentent, plus on soit imposé, de manière beaucoup plus progressive. Là, il y a 5 tranches qui existent. 0, 14%, 30%, 41%, 45%. Je crois qu'il y a un candidat qui voulait passer à 20, plus de 20 tranches, je crois. De façon à augmenter l'effet progressif de cet impôt. Oui, non, mais 14 tranches. Un certain candidat qui aurait pu être... élu à 600 000 tranches près, on avait proposé 14 a priori. J'ai dit 20, je vais peut-être exagérer un peu. Zorg, non. Tu donnes un exemple. De 0 à 100, tu payes rien. De 100 à 200, tu vas payer 10% sur cette tranche. Donc si tu gagnes 200, tu vas payer 20 euros. Non, tu vas payer 10 euros. Parce que tu vas payer 10% de la tranche de 100 à 20. Je ne sais pas si c'est clair comme pour tout le monde. Appartenant à une asso, on peut déduire ses impôts comment? Il y a à peu près 3800 façons de réduire ses impôts. Je vous laisse chercher sur Internet ou demander à votre conseiller financier en patrimoine. Voilà, il y a 200 niches fiscales en France, vous allez consulter. Bon, il y a aussi des niches fiscales pour l'impôt sur le revenu, pour l'impôt sur la fortune, mais... Voilà, c'est quelque chose d'un peu compliqué le mécanisme, mais en fait, une fois qu'on prend le temps de se poser pour le comprendre, ça se passe mieux en général. Voilà. Mais c'est très bien l'exemple que tu donnes, c'est peut-être plus clair pour tout le monde, Zorg. Tu as bien fait de l'écrire. Et Jojo propose ses services de comptable au Discord, sur le Discord, les amis. L'occasion pour moi de vous remercier d'avoir été présent, de remercier Alex à la régie qui a assuré comme un chef, une expression bien de chez nous. Je tiens à remercier la modération qui a modéré toujours avec dextérité et sincérité. Et ça, on l'aime pour ça. Remercier Théo qui a fait un magnifique générique. Remercier l'équipe de préparation qui a été exceptionnelle, comme d'habitude j'ai envie de dire. On commence à s'habituer à ce caractère exceptionnel. Ce qui est assez paradoxal finalement, et c'est ça qui est génial avec elle, c'est qu'elle sait se renouveler dans l'exceptionnalité. Et c'est ça qui est beau. Donc je remercie Amy, je remercie Thomas, je remercie... J'ai pas envie de dire de bêtises sur le prénom. Surtout qu'il n'a pas le même nom sur le chat et dans la vraie vie. Donc, Benoît. Voilà. Qui est-ce que je n'ai pas remercié? Je remercie les tipeurs qui ont été exceptionnels encore une fois sur ce stream. Je réponds à une question qui a été posée tout à l'heure. Pourquoi Jean a moins de dons pendant ses streams que moi? Eh bien tout simplement parce que Jean stream plus souvent. Et donc au cumul en fait, il en a plus. Je remercie Jean qui m'a laissé sa place généreusement. Hein. Qui est-ce que je n'ai pas remercié? Je vous invite à aller sur le Discord pour continuer... Pour continuer les débats, le lien est dans la description, vous avez le Facebook, le Twitter, tout ça. Je vous invite à mettre le pouce bleu sur le replay pour soutenir la visibilité d'Acropolis. Je remercie Théo qui va nous faire une magnifique miniature pour cette vidéo. Je ne m'en inquiète pas, j'en suis sûr. Je lui fais confiance. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si je crée mon asso, je me donne mon argent et je paye pas d'impôts, ça marche. Non. Ça se passe pas comme ça, le gros gag. Alors déjà, quand tu donnes à une asso, tu donnes pas à quelqu'un, tu donnes à une asso. Et il y a certaines règles pour les associations, c'est pas à toutes les associations. Et donc, rendez-vous sur le Discord. Le prochain stream sur Acropolis est à 19h45. Vous sortez vos cahiers de texte et vous notez 19h45, 2 points, au Canada. Avec le bon Florian, qui viendra vous parler du Parlement d'outre-Atlantique. Voilà. Il me reste à vous souhaiter un fort. On peut dire les deux. Un fort agréable après-midi en notre absence, soit avec les replays. Et je vous dis, moi, pour ma part, je ne sais pas quand, à bientôt. Rendez-vous ce soir à 19h45 pour Au Canada. Gros bisous.